Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un univers littéraire extraordinaire, celui d'un auteur dont le défi est de construire une œuvre composée de 49 livres signés par 4 écrivains différents et qui s'inscrit dans un mouvement nommé le post-exotisme. Sous le pseudonyme d'Antoine Volodine et avec 3 autres alias, Lutz Bassmann, Manuela Dreger et Elie Kronauer, il incarne cette écriture à 4 voix. Et depuis les années 2000, à tour de rôle, sous ses différentes identités littéraires, sont publiés chez différents éditeurs des romans nés de son imagination et qui déclinent un monde à la fois fantasmé et en même temps issu de la réalité, qu'elle soit passée, présente ou à venir. Le 43e volume de ce projet inédit vient de paraître sous le titre « Frères sorcières » aux éditions du Seuil. Et il est signé par Antoine Volodine, qui sera donc le nom avec lequel je m'adresserai à vous aujourd'hui. Bonjour Antoine Volodine.
Bonjour Catherine.
Il n'est pas impossible que nos auditeurs du monde entier soient un peu déconcertés avec la présentation que je viens de faire, sans doute trop simple pour rendre justice à votre projet. Voulez-vous donc pour commencer nous expliquer ce qu'il faut comprendre peut-être d'abord par post-exotisme ?
Le post-exotisme, c'est un édifice romanesque, un objet en prose qui, livre après livre, se construit et qui aura, si je réussis à terminer cette entreprise, cette performance, qui aura 49 livres, 49 volumes, 49 éléments. Alors, il n'y a aucune théorie là derrière, il n'y a pas de discours mystique, il y a simplement l'idée de fabriquer un objet au fil de 35, 40 années de travail, un objet en prose dans lequel les lecteurs et les lectrices sont invités à rentrer, pas forcément dans un ordre de livre bien déterminé, et je crois que c'est pas très difficile d'y rentrer. Ce qui est peut-être plus difficile, c'est d'en sortir.
Essayons encore un peu de comprendre avec vous à quel moment se destine ce projet, pourquoi s'incarne-t-il à travers 4 voix, 3 hommes et une femme, pourquoi 49 titres et pas 50 ?
L'idée, c'était de faire exister dans le monde réel, de faire exister une littérature qui vienne d'un collectif, d'une communauté d'auteurs. Et avant le premier livre publié, j'avais écrit quelque chose qui était une anthologie de cette littérature qui était, du point de vue temporel, qui se situait après la fin de l'humanité, à un moment où l'humanité réexistait sous une forme animale différente de celle de... mais qui se réclamait de l'humanisme. Et pendant des années, j'ai écrit des livres avec cette idée de plusieurs voix, cette idée de polyphonie qui était très présente à l'intérieur des livres, avec des intervenants, des écrivains qui intervenaient à l'intérieur du livre, plusieurs narrateurs qui prenaient la parole en même temps, de façon parfois en se battant entre eux pour avoir le pouvoir à l'intérieur de la narration. Et puis un jour, au début des années 90, ça fait 30 ans maintenant, hein, un journaliste m'a demandé « Mais où vous vous situez, Antoine Volodine ?» Et pour me moquer de lui, je lui ai dit que je faisais du post-exotisme anarcho-fantastique. Et à partir de là, le mot est resté, mais j'avais pas prévu de dire ça, en fait.
C'est quasiment un malentendu.
C'était une boutade, mais ensuite, je me suis dit que c'était assez pratique d'avoir baptisé la construction qui était en chantier, qui commençait à émerger hein, à ce moment-là, c'était plus pratique de parler du post-exotisme plutôt que d'expliquer que ce que j'écrivais, ça n'était pas de la science-fiction, et expliquer ce que c'était que la science-fiction à ce moment-là, ça n'était pas de l'écriture blanche d'avant-garde comme en publiaient les éditions de Minuit. Et donc, à partir du moment où j'étais obligé de dire « ça n'est pas », j'étais obligé de parler d'autres littératures et d'un autre travail que celui que j'accomplissais. Et à partir d'un certain moment, c'était plus simple. Je faisais du post-exotisme, quelque chose existait, mais j'annonçais beaucoup de choses. Et jusque-là, je n'avais pas réussi à faire exister dans le monde éditorial français les auteurs, les hétéronymes, les Manuela Dreger, Lutz Bassmann et Eli Kronauer. Et il a fallu une douzaine d'années pour que ça s'impose. Mais chacun de ces auteurs dont vous avez donné les noms a son éditeur, son monde poétique, son écriture et son éditeur. Ouais.
Merci Antoine Volodine de nous avoir expliqué les fondations donc de ce projet. Maintenant, entrons dans cet édifice avec vous, dans cette 43e pièce, j'ai envie de dire, Frères sorcières, donc sous-titré Entre voûtes, qui était aussi le sous-titre du livre Avec les moines soldats de Lutz Bassmann en 2008, mais également de Nos animaux préférés d'Antoine Volodine en 2006. Entre voûtes, qui est d'abord, me semble-t-il, un terme architectural.
Oui, bien sûr, il y a des structures, une structure en trois parties, mais également c'est une construction musicale, et on pourrait considérer qu'il y a trois voix, trois mouvements.
Oui,
mouvements.
Voilà. C'est un terme qui souligne aussi le phénomène d'écho, écho dans tous les sens du terme, qui fait référence à autre chose, mais l'écho sonore.
Oui, c'est pour ça qu'on est dans un univers musical, un univers de la parole,
oui.
Puisque d'un bout à l'autre, on est dans la parole, qui est traitée de façon très différente.
Oui.
Mais on est dans trois types de paroles, trois types qui renvoient au théâtre et qui renvoient à la musique. C'est un ensemble qui est à la fois poétique, politique, romanesque, musical.
Voilà. Alors, si vous voulez bien, Antoine Volodine.
Et théâtral.
Bien sûr. On va décrire la structure de ce livre qui est donc articulé entre trois parties. D'abord le récit d'Eliane Schubert, monologue à la première personne d'une femme qui répond aux questions lapidaires d'un juge invisible et qui raconte...
Ah oui, là on est plutôt dans un dialogue.
Dans un dialogue. Oui,
voilà.
Mais c'est essentiellement elle qui prend la parole. Et elle raconte comment elle faisait partie d'une troupe de théâtre ambulant et comment elle et ses compagnons ont été kidnappés par des bandits qu'elle a dû suivre comme prisonnière pendant des mois, sans doute des années. Ensuite, la deuxième partie, un cantopéra, la retranscription écrite de 343 vociférations, des slogans, pour vous citer, qu'Eliane disait sur scène et qu'elle a hérité de sa mère et de sa grand-mère. Enfin, une troisième partie qui fait entendre la voix d'un être qui, depuis des milliers d'années sans doute, glisse d'un corps à l'autre, endosse identité féminine ou masculine et traverse un monde de violence, de cruauté, à la fois qu'il exerce ou qu'il subit. Et entre ces trois, donc, le point commun, sans aucun doute, la voix, le souffle, la vie qui résiste, une circulation entre toutes les formes humaines ou animales, voire végétales. Est-ce que c'est de la magie ou c'est de la sorcellerie, Antoine Volodine, pour reprendre le titre de ce texte ?
Eliane Schubert, au début du livre, est une comédienne. Mais par tradition familiale, sa mère et sa grand-mère lui ont transmis quelque chose d'étrange, un ensemble de phrases bizarres qui ont un aspect vocifératoire, effectivement, et qui, en même temps, peuvent être, et on le voit dans le récit, qui peuvent être utilisées comme paroles magiques, comme paroles guérisseuses, puisque à la fin de ses aventures, Eliane Schubert récite avec une complice, on va dire, une autre maîtresse du chef bandit qu'il a capturé. Elle récite auprès d'une femme en train de mourir ces phrases qui peuvent être interprétées comme des sortes de prières, qui sont en fait des conseils étranges venus d'un autre monde, des conseils sorciers pour les femmes, pour les petites sœurs du malheur. C'est exprimé comme cela dans le livre, les petites sœurs du malheur. Or, Eliane Schubert et cette mourante au chevet duquel elle se trouve sont des petites sœurs du malheur. Les femmes qui ont été capturées en même temps par les bandits, qui deviennent des esclaves sexuels ou au mieux des maîtresses obligées, sont des petites sœurs du malheur. Et ces phrases deviennent quelque chose d'intime pour résister, pour se défendre contre le malheur qu'elles subissent, qu'elles vivent, qu'elles traversent.
Si vous voulez bien, Antoine Volodine, je vais en lire quelques-unes. Si tu survis encore, va mourir dans le sable étrange. Si la mouette ne s'éteint pas, accompagne son cri. Accompagne le cri, jamais ne le déchiffre. Petite sœur de la mouette, crie, éteins-toi. Si tu aimes la sœur de la mouette, ne déchiffre pas son cri, éloigne-toi. Fermez les guillemets. Ce sont des vociférations qui, en effet, semblent avoir ce pouvoir de guérison, mais qui, à la lecture, nous paraissent comme venues d'un autre monde. D'où viennent-elles, Antoine Volodine? Est-ce qu'elles ont surgi comme ça en vous, ces phrases, pour les écrire?
Alors, d'où viennent-elles? C'est un legs littéraire, c'est un legs mystique, hein, quelque chose qui est transmis de femme en femme, de génération en génération, et qui donc a un caractère sacré, on va dire. C'est comme une sorte de livre sacré inventé. Maintenant, d'où cela vient? J'ai, il y a une vingtaine d'années, été traducteur et éditeur, on va dire, d'une œuvre magnifique de Maria Soudaïeva, qui a été donc traduite, entièrement réorganisée, parce que le manuscrit était impossible à publier tel quel.
De langue russe?
De langue russe, avec des mélanges de langues, des emprunts à la vieille langue russe. Ça aurait pu être impossible à traduire. Donc, c'est un livre qui est paru aux éditions de l'Olivier, avec le titre « Slogan », et qui est construit comme ces vociférations. Et j'aurais pu buter en permanence dans cette traduction qui semblait impossible. Et puis, j'ai trouvé là une sœur d'écriture, et j'ai traduit en extase, véritablement, en transe, et c'était extrêmement facile, c'était magique. Voilà, j'ai travaillé avec un immense bonheur de traduction et de co-auteur sur les slogans de Maria Soudaïeva. Et en même temps, donc j'ai été sous leur influence et j'ai écrit d'autres slogans qui sont ces vociférations qui ressurgissent dans ce livre.
Donc voilà. Il y a eu une circulation, une transmission entre elle et vous, comme transmission entre Eliane et ses aïeuls.
On peut le dire, oui, c'est très beau ça, comme ça, oui, oui.
Comme le chamanisme qui veut faire communiquer
oui.
Le monde entier.
Oui, oui, vraiment le relais a été transmis, a été donné. Et bien sûr, ces vociférations, c'est un hommage à Maria Soudaïeva, la poétesse russe, donc dont j'ai hérité des manuscrits. Alors qu'elle venait de mourir, voilà.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivain Antoine Volodine, avec qui nous parlons de ce nouveau roman « Frères sorcières » aux éditions du Seuil, un titre qui donc associe d'emblée masculin et féminin, comme si la question du genre était soluble. Et pourtant, ici, les voix qui s'expriment, et on l'a entendu précédemment avec vous, ces voix qui endossent la douleur plus que les autres sont essentiellement féminines. Je dirais même que c'est un texte très féministe. Qu'en pensez-vous, Antoine Volodine ?
Ah oui, je suis complètement d'accord avec ça. C'est un texte qui dénonce en permanence, en la décrivant, et sans discours moralisateur, qui dénonce en permanence la violence faite aux femmes. Dans la première partie, c'est absolument évident. Enfin bon, les aventures de Eliane Schubert sont tragiques et sont faites de violence particulièrement abjecte qu'elle subit. La deuxième partie, c'est un chœur de voix féminine qui s'adresse aux petites sœurs du malheur, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis la troisième partie, on est dans un monde flottant, noir, insituable, bien sûr, avec une voix qui est mise en scène, une créature qui change de sexe. Enfin, c'est pas qu'elle change de sexe, c'est que d'incarnation en incarnation, c'est sa manière d'exister, d'incarnation en incarnation, elle ne fait pas, cette créature magique, de différence entre naître sous les traits de Bella Ciao ou sous les traits de Hadef Kakaïn, donc d'une femme, d'un homme. Le genre ne compte plus dans cette immensité noire qui est traversée pendant des siècles, des centaines de siècles, et peut-être beaucoup plus. La question du genre est totalement dépassée. Mais ce qu'on voit, c'est que systématiquement, les femmes, que ce soit sous la forme donc de cette créature ou sous une autre forme, subissent des violences inadmissibles. Et c'est pour ça que je pense que la question principale, c'est bien la question des violences faites aux femmes. Mais évidemment, dans un monde magique, ça n'est pas la logique, disons, de balance ton porc. Hein. On est dans un monde poétique, un monde qui est bien au-delà de l'actualité immédiate. Mais bien entendu, cette préoccupation de violence subie en permanence parce qu'on est femme se trouve dans le livre mis très en évidence.
Et en effet, tous les personnages subissent ces outrages sexuels. Et je me disais, Antoine Volodine, il n'y a pas la moindre fenêtre d'espoir, d'amour chez vous ?
Ce livre est assez noir, il faut bien le dire. Surtout, la dernière partie se trouve dans un monde noir, mais très vivant, enfin très agité. C'est un livre ici, Frères sorcières, où effectivement l'amour n'existe pas comme pièce entraînant l'espoir. Cela dit, il y a dans la troisième partie des passages où une sorte d'amour-passion, d'amour-folie est mise en œuvre entre deux êtres qui vont se déchirer. Et il y a un contexte amoureux qui est très présent. Cela dit, dans beaucoup d'autres livres, au contraire, l'amour est le moteur qui fait avancer les personnages qui sont dans des situations souvent très noires, très désespérées, mais qui les fait avancer. Retrouver l'être aimé, chercher l'être aimé, espérer des retrouvailles avec l'être aimé, que ce soit un homme ou une femme, en dépit des distances, en dépit du temps, en dépit de la mort. C'est cet amour monogame, très 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 puissant, qui est un des moteurs de beaucoup d'histoires post-exotiques.
Mais voilà. Pas dans Frères sorcières, moins en tout cas.
Beaucoup moins, oui. Oui, ça arrive parce que autrement, ça serait une répétition.
Puisque vous évoquiez la troisième partie de ce texte, Frères sorcières, je vous propose, Antoine Volodine, d'écouter un extrait du spectacle mis en scène par Joris Mathieu, qui, avant la publication même du livre aux éditions du Seuil, a proposé une version scénique à Lyon.
Et moi, Madeleine Pol Pot, par le troisième ciel rouge sang, et par celui qui est, qui sera et qui s'en est allé, je vais résister à l'invasion de cet étranger qui n'est pas la dénommée Bella Ciao en 7 secondes. Mais si l'on cherche les sources et les racines, si l'on puise dans les lointaines mémoires de l'espace noir,
dans les lointaines
qui n'est pas non plus la regrettée
de l'espace noir,
Odilon,
derrière la cuirasse innommable de centaines de milliers de siècles et de centaines de milliers d'identités successives et ridicules, qui n'est nul autre que l'infâme, le cruel et l'hélas indestructible Mo'o, Mo'o, ce seul prince de la suie radieuse et des flammes inhabitables.
Un extrait donc de Frères Sorcières, la version scénique de Joris Mathieu de votre texte, Antoine Volodine. Une adaptation que je trouve très réussie, en tout cas dans cet extrait, puisqu'on entend la superposition des voix. On passe du masculin au féminin et on entend bien la métamorphose de vos personnages, parce qu'il me semble que c'est bien ça qui traverse vos livres, c'est comment on accède peut-être à un autre état, comment on se métamorphose. Alors parfois on peut penser à Orlando de Virginia Woolf, qui aussi dans ce même procédé passait d'un corps à l'autre et avançait d'une expérience à l'autre. Est-ce que l'écrivain n'est pas justement celui qui accompagne la métamorphose de ce qu'il voit autour de lui ?
Beaucoup plus que la métamorphose, ce qui m'intéresse, c'est la réincarnation. Et depuis un grand nombre de romans, les personnages vont vers la mort, traversent la mort et se réincarnent. Et là, dans ce livre, c'est extrêmement présent. On ne se métamorphose pas, on change d'identité, on se réincarne véritablement, et ça c'est ce qui se passe pendant l'écriture certainement, cette plongée à l'intérieur de personnages, quand les personnages sont forts, sont puissants, sont accompagnés d'images et d'aventures puissantes, on est soi-même pendant l'écriture happé par cela et on s'incarne comme les comédiens s'incarnent au théâtre. Mais là, c'est une incarnation qui, au moment de l'écriture, tient compte du public, bien sûr, mais enfin, on n'est pas sur les planches.
Mais voilà. Est-ce que c'est cette incarnation, la puissance de ces voix en vous, qui aussi détermine le style? Parce que là, nous avons, dans ce livre, 3 registres littéraires très très différents. Un récit d'aventure, une épopée, un récit plus religieux, ou en tout cas plus incantatoire, et puis un 3e registre où, sur plus d'une 100 pages, il n'y a aucun point.
Oui.
Qui décide que cette partie sera d'une seule phrase, Antoine Volodine? Vous, les écrivains, vous, l'écrivain, ou les voix que vous portez en vous?
Ah, c'est très difficile de répondre à cette question, parce que la question de la décision ne se pose pas. Voilà, tout simplement. Qui écrit? Eh bien, c'est moi, à ce moment-là. Et pourquoi j'écris avec cette forme-là? Ça s'impose. Et je dois dire que cette forme sans point qui est tout à fait lisible, enfin c'est pas avant-gardiste, c'est simplement un souffle continu depuis la première jusqu'à la dernière page, ça s'impose naturellement, je sais pas, et peut-être c'est bizarre de parler comme ça, mais il y a une notion de plaisir d'écriture qui fait que à partir du moment où on est lancé dans ce travail-là, on le fait avec bonheur. Et l'idée de faire une longue phrase qui se déroule de façon qu'on aurait pu interrompre avec des points, les points cassent la continuité de ce souffle. Eh bien, ça a été écrit sans effort, voilà, tout simplement. L'absence d'effort, le plaisir d'écrire conduisent à ce style à un moment. Pourquoi, d'où ça vient, je ne sais pas, je ne suis pas mystique du tout, je crois que ça vient comme ça, on va dire.
Je suis contente que vous parliez de plaisir, Antoine Volodine, parce que peut-être que jusqu'ici on a été un peu trop sérieux, on a parlé de ce livre en essayant de décortiquer, de comprendre, mais c'est vrai que il y a du jeu aussi, ne serait-ce que quand vous citez au détour d'une phrase l'œuvre de Lutz Bachmann, qu'on voit apparaître dans une bibliothèque, avec des titres d'ailleurs qui ne sont pas les bons. Là, il y a un vrai jeu. Et de même que vous citez Volodine, alors si vous le permettez, je vais lire ce petit extrait, c'est page 279. Alors, difficile pour moi de commencer, mais je m'appuie derrière une virgule. Et enfin, elle se tourna vers Barbara Dévasteuse. Milmi, grande fripouille, et Augustine, aile de faucon, et les caressa d'une voix extrêmement agréable et mélodieuse, citant pour les consoler des quatrains de poètes post-exotiques qu'autrefois Volodine, par pure jalousie mesquine, avait passé sous silence, vraisemblablement parce que la magnificence de leur prose rythmée, au contraire de la sienne, projetait immédiatement dans un état de jouissance qui pouvait durer des semaines, sans parler du fait qu'elle repoussait dans les oubliettes de la littérature les laborieuses tentatives poétiques des prisonniers écrivains dont Volodine avait parlé et qui, on ne sait pourquoi, avait connu la gloire éditoriale. Fermez les guillemets. Là, Antoine Volodine, vous vous amusez, n'est-ce pas ?
L'autodérision fait vraiment partie de notre travail, hein, depuis toujours. Et effectivement, on s'amuse. Il y a une dimension ludique, une dimension de jeu dans cette construction qui a l'air un peu solennelle en 49 volumes. Non, il y a beaucoup de jeux, beaucoup de clins d'œil. Voilà un exemple de clin d'œil. On essaie de faire du beau, on essaie de faire quelque chose de somptueux littérairement, mais en même temps, on se prend pas au sérieux, voilà.
Qu'en est-il du 44e volume ?
Le 44e volume sera signé Manuel Adreguer et il est déjà écrit.
Et que va-t-il se passer après la publication du 49e volume ?
Il se passera que existera dans le monde éditorial un objet, un ovni visitable, appréciable, j'espère, qui restera, voilà.
Et vous continuerez d'écrire ?
Non. Non. Mon travail, c'est de faire naître cet objet en prose, cet objet d'art en prose, en 49 volumes. Et c'est pas mal déjà, hein ?
Oui, c'est pas mal. Mais ça veut dire qu'après, c'est quoi ? Silence ?
Oui. Si vous voulez, oui. D'ailleurs, la dernière phrase, elle est annoncée, c'est « je me tais ». Après cette dernière phrase, je me tairai d'abord. Nous nous tairons, et puis je pourrai peut-être jouir d'un repos bien mérité.
Comme Samuel Beckett, donc. Merci beaucoup, Antoine Volodine.
C'est moi qui vous remercie, Catherine.
D'être venu nous parler de ce nouvel édifice, Frères sorcières, entre voûtes, qui a paru aux éditions du Seuil.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.